Alors, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles est une association qui a une mission d'intérêt général.
La minute du CIDFF.
De parler de beaucoup de sujets, de beaucoup de thèmes qui sont en relation avec vos missions.
Le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles.
Venir interroger chacun d'entre nous sur nos représentations et puis de pouvoir observer pour pouvoir peut-être bouger les choses.
Sur 48FM.
Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans votre émission La Minute du CIDFF sur 48FM avec aujourd'hui Valérie qui m'accompagne. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors Valérie, on va parler d'un thème qui colle à l'actualité avec la déclaration aux impôts en ce moment. Donc nous allons parler fiscalité. Mais pourquoi nous parlons fiscalité aujourd'hui ?
Alors pourquoi parler fiscalité ? Encore un sujet d'observation. Pour voir comment la fiscalité peut impacter l'autonomie des femmes, comment l'autonomie des femmes peut aussi être malmenée à travers la fiscalité et venir contrecarrer le principe d'égalité entre les femmes et les hommes.
Alors pour cela, tu te bases sur un rapport qui est sorti sur l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes, c'est ça ?
Oui, c'est ça. La Fondation des femmes a lancé son observatoire donc de l'émancipation économique des femmes, qui réunit des expertes sur les questions d'argent féministe pour penser la situation économique des femmes et les écarts qu'elles subissent en intégrant les poids des stéréotypes et les phénomènes juridiques et sociaux qui entravent cette autonomie. Voilà, donc la Fondation des femmes a lancé cet observatoire, et observatoire qui a rendu un rapport fort intéressant en février 2023.
Alors que nous dit ce rapport, quels sont les freins, quels sont les problèmes soulevés ?
Alors, si on revient sur la fiscalité, tout d'abord les principes de fiscalité et l'impôt sur le revenu qui constitue l'impôt principal de la fiscalité des particuliers en France, l'impôt, il est calculé sur la base de tous les revenus qui composent le foyer fiscal, donc le contribuable, son conjoint et puis les personnes à charge. Pour calculer le taux d'imposition que l'on se voit affecté, l'administration fiscale s'appuie sur la taille du ménage quand on est en couple, en fonction d'un barème progressif qui va de 0% à 45%. Donc quand vous faites une déclaration commune, on va considérer les revenus de monsieur et de madame ou des membres du couple, si on avait un couple de même sexe. Et ce principe en fait de barème progressif et de foyer fiscal, ce système de quotient conjugal, c'est un héritage des années 50. Les années 50, en fait, on était sur des politiques publiques natalistes dans un contexte où on avait plutôt des couples monoactifs, où monsieur ramenait les revenus et madame s'occupait du ménage. Et ce rapport vient questionner en fait cette ancienneté du principe de conjugalité qui ne colle plus en fait à la peau des variétés de familles que l'on a actuellement. Donc dans ce rapport, il est précisé comment la conjugalité, donc l'association homme-femme et des revenus homme-femme, des activités homme-femme, peut être défavorable aux femmes quand on vit ensemble. Donc là, que l'on soit en couple, concubin, marié, paxé. Le rapport dit même que ce couple n'est pas un espace neutre. Dans une première partie, le rapport cite l'attribution des prestations et des aides sociales qui viennent impacter l'autonomie des femmes. Par exemple, la prime d'activité, c'est une prestation sociale qui est destinée à encourager l'activité économique et le travail d'une personne à titre individuel quand elle a une activité, des produits d'activité qui sont modestes. Mais cette prime d'activité, elle est conditionnée par le revenu du conjoint. Donc, le rapport indique qu'à travers ce mode de calcul, cette aide qui a vocation à encourager l'activité économique individuelle renvoie les femmes au chaperonnage économique de leur conjoint. C'est-à-dire que, ben voilà, elles n'ont aucune autonomie économique. Et que l'État part du principe de solidarité conjugale qui s'applique et que le partenaire doit vous prendre en charge. Voilà. Donc, et à l'inverse, Donc, vous avez besoin, ou vous auriez besoin de la prime d'activité en complément de votre activité de travail, vous êtes pénalisé du fait des revenus de votre conjoint. Et à l'inverse, pour notre impôt, qui est le sujet de notre émission aujourd'hui, pour notre impôt sur le revenu, en fait, on va se rendre compte que si votre conjoint a des revenus plus élevés que vous, vous allez être impacté, si vous avez des revenus plus faibles, par le taux d'imposition du foyer. C'est ce qu'explique très bien le rapport.
Voilà, parce que généralement, on met en commun, donc...
Tout à fait. On met en commun, donc...
On déclare en commun et les taux qui s'appliquent, on récupère le taux de son mari en ayant des salaires moindres. Oui.
Tout à fait. Et c'est la partie du rapport qui s'intitule « La conjugalisation de l'impôt sur le revenu, un cadeau fiscal fait aux hommes aisés, aux frais des femmes et de l'État ». Donc c'est vrai que ce que je vais développer là, par la suite, ça ne prévaut pas ou ça ne s'applique pas quand on a des revenus équivalents ou voilà, qu'il n'y a pas d'écart de revenus. Mais aujourd'hui, le système fiscal français surtaxe les revenus des femmes et permet aux hommes, notamment les plus riches, de s'enrichir. C'est ce que dit le rapport. Pourquoi ? Parce que l'impôt sur le revenu, il est calculé, comme tu disais tout à l'heure, dans la majorité des cas, à partir de l'addition d'un revenu moins élevé et d'un revenu plus élevé. Et cette mise en commun fait baisser l'impôt de celui qui gagne plus et augmenter l'impôt de celui qui gagne le moins. Et on sait qui gagne plus et qui gagne moins. Donc les femmes se retrouvent pénalisées parce qu'elles travaillent moins ou qu'elles perçoivent moins. Le principe de l'impôt est que l'impôt est calculé sur ce taux personnalisé. Donc on pourrait très bien avoir le choix par les couples d'un taux individualisé. On va y revenir tout à l'heure. Donc on va prendre l'exemple du taux personnalisé. On imagine une famille avec deux membres sans enfants. Donc on va avoir deux parts. Madame gagne 20 000 euros, monsieur gagne 60 000 euros. La masse de notre revenu, elle est de 80 000 euros. Et on a donc 80 000 euros et deux parts. Le rapport indique que le taux qui serait appliqué serait de 13,98%. Donc, madame... Si on met en commun sur les 80 000. Donc, madame se verrait appliquer 13,98% sur les 20 000 et monsieur 13,98% sur les 60 000. L'impôt étant prélevé maintenant à la source, madame aura 2 796 euros qui lui seront déduits de ses revenus, qui ne reviendront pas, même pas, qui ne repasseront pas comme antérieurement par le pot commun, puisque vous vous rappelez, il y a quelques années encore, on pouvait mensualiser ses impôts ou bien les payer à l'année. Et du coup, ça pouvait éventuellement être le compte commun qui payait ses impôts. Aujourd'hui, c'est notre fiche de salaire qui est prélevée. Et si elle avait un taux individualisé, en fait, la somme à payer, elle ne changerait pas. L'État percevrait le même montant, le même voilà. Mais madame avec un taux individualisé ne paierait plus que 1014 euros d'impôts à la place de 2796 euros, comme si elle était célibataire. Et monsieur, lui, paierait 10 173 euros au lieu de 8 390 euros, mais moins aussi que s'il était célibataire. Donc l'impôt, l'État ne perdrait pas, mais on retrouverait en fait un certain équilibre
fiscal. Ce serait plus équitable.
Ce serait, il me semble, plus équitable. Et d'ailleurs, on a une députée qui a symboliquement, mais qui défend aussi cette proposition de loi, déposé une proposition de loi le 8 mars 2023 pour encourager une proposition de loi qui porte sur différents domaines fiscaux pour favoriser l'autonomie des femmes, pour encourager en fait l'État à appliquer ce taux individualisé. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais s'il y a des couples qui nous écoutent, la démarche, elle peut se faire sur ce taux individualisé sur l'espace particulier de impôts.gouv, gérer mon prélèvement à la source. Donc on peut aussi faire la démarche. Donc, pour revenir à notre proposition de loi, donc la députée, elle souhaite accélérer l'égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes pour parvenir à une meilleure autonomie économique des femmes. Et elle défend ce principe de taux individualisé. Voilà, comme elle défend aussi d'autres principes.
D'accord. Elle est passée, cette proposition?
Non, elle n'est pas passée, mais je vous encourage à lire les préambules de la proposition de loi qui porte sur différents aspects de la fiscalité, dont aussi la possibilité pour toutes les associations qui œuvrent pour les droits des femmes d'être reconnues d'intérêt général et de pouvoir bénéficier de dons qui permettent des déductions d'impôts. Et elle a aussi un autre article de loi fort intéressant sur les successions. Là aussi, un autre sujet qu'on pourrait observer, où les femmes en fait se retrouvent souvent pénalisées avec le principe d'évaluation d'attribution en valeur des parts successorales. Et elle encourage à réintroduire une évaluation en valeur et en nature dans les successions. Voilà. Donc, ce sujet aussi, c'est un sujet qui est quand même largement observé, hein. On a aussi des données de l'INSEE qui a, en 2019, donc a rendu un rapport « L'imposition conjointe des couples mariés » en indiquant que le taux d'imposition des hommes sous le régime de la conjugalité baisse de 13 points en moyenne grâce aux revenus bas de leur conjointe, tandis que celui des femmes augmente de 6 points si l'on compare à ce qu'elles paieraient si elles étaient célibataires. Donc l'OCDE aussi a rendu un rapport qui observe dans plusieurs pays la politique fiscale et l'égalité femmes-hommes. Et là aussi, on a des pays, ce rapport met en avant l'application du taux individualisé pour l'impôt sur le revenu.
Voilà, et comme on a déjà les sommes qui sont données par les impôts, ça ne donnerait pas plus de travail finalement à qui que ce soit. Parce qu'on a déjà les déclarations qui sont faites par...
Les déclarations sont faites, en fait, il suffit juste de
faire deux déclarations.
Et d'activer la démarche pour changer son taux.
Voilà. Et comme ça, la personne du couple qui ne fait pas les déclarations s'y mettra un peu.
Peut-être.
Comme moi, qui ne le fait pas. Voilà. C'est aussi une autre question qui fait les déclarations.
Mais là aussi, en fait, ce sujet, on pourrait en discuter longtemps, mais c'est aussi dans les familles, quelle stratégie on met en place pour éviter de payer le moins d'impôts possible. Donc celui qui va, est-ce qu'on a intérêt à travailler plus ou pas? Et effectivement,
pour éviter
ce principe...
Pour payer le plus d'impôts possible.
Voilà.
Pas le moins.
Pour éviter, pardon, de payer le plus d'impôts possible. Et les stratégies qui sont à l'œuvre ont plutôt tendance à ne pas inciter les femmes à travailler ou à travailler moins. D'où une autonomie économique qui n'est pas du tout réelle.
Bien, merci beaucoup Valérie. Okay.